Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
Vous écoutez
Martino.
Cube Radio.
Alors, nous parlons avec Jérôme Blanchet-Gravel, essayiste et journaliste. Salut, Jérôme.
Salut, Richard.
Écoute, tu veux parler de David Suzuki qui s'est excusé pour des commentaires concernant les pipelines. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Parce que c'est pas la première fois qu'il dérape un peu, là.
Ben écoute, notre Suzuki a quand même prédit que des gens allaient faire sauter des pipelines si nos gouvernements en faisaient pas davantage pour l'environnement. Donc, une citation, une déclaration, c'est-à-dire assez choc. Quand même, écoute, ça fait penser que l'éco-terrorisme pourrait être une possibilité à l'avenir. Je pense qu'on ne peut pas s'en cacher. Donc, la question, est-ce que Suzuki a incité à la violence? Il a été conseillé juridiquement de s'excuser et de retirer ses propos. Donc, une citation, une déclaration que je trouve quand même assez préoccupante parce qu'elle traduit quand même un certain état d'esprit pour le moins apocalyptique.
Lui, il n'a pas dit « je vais faire sauter des pipelines », il n'a pas dit « on devrait faire sauter des pipelines », mais il a dit « si le gouvernement continue comme ça, il y a des gens qui vont faire sauter des pipelines », c'est ça là?
Exactement. Oh oui, non, c'est, il n'a pas dit à des militants « faites-le ». Il n'a pas dit que c'était un projet que lui-même avait en tête, là. Mais si on regarde même l'évolution du cinéma récemment, il y a plusieurs films qui proposent des scénarios dans le genre. Il y a un film scandinave que j'oublie là, qui est sorti il y a quelques années.
Oui, oui, oui.
Où, je sais pas si tu te rappelles. Bon, oui. C'est une femme qui décide de faire sauter des tours électriques, là.
Oui.
Donc, tu sais, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même, c'est un scénario qui baigne dans l'imaginaire et qui, évidemment, on sait qu'il y a des crackpots dans notre société. Il y a des gens qui peuvent être radicalisés à droite ou à gauche. Et donc, c'est comme quand même quelque chose qui pourrait éventuellement arriver. Peut-être pas au Canada, ça peut être dans d'autres pays aussi, là. Mais il joue
en fait sur la ligne très fine, là, en disant, il y a des gens qui pourraient faire ça. C'est presque banalisé, cette affaire-là. Moi, ça me fait penser, il y a des anti-vax crinqués qui m'écrivent en disant « le karma va te rattraper ». Ils disent pas « on va te péter à gueule ». Le karma va te rattraper, pour moi, c'est comme une menace, mais déguisée. C'est un peu ça ce qu'il dit, là. Le karma va rattraper le gouvernement.
Ben oui, c'est ce genre de menace voilée. Puis, ben notre Suzuki, évidemment, est protégé par son statut. S'il était un militant pour une réduction des une baisse des seuils d'immigration, forcément, on en parlerait beaucoup plus. Le Radio-Canada en a fait état hier, mais c'est clair qu'on imagine n'importe quel partisan, par exemple, d'Éric Zemmour, qui va dire que on devrait s'en prendre. Par exemple, à des migrants qui arrivent par la Méditerranée et qu'on va faire sauter, par exemple, les navires qui servent à la garde côtière, les navires qui vont finalement chercher les migrants en mer avant qu'ils ne se noient. Et on imagine un militant identitaire qui tiendrait de tels propos sans dire qu'il va s'en prendre à des migrants directement. Évidemment, ça passerait pas du tout. Et ben c'est ça, on peut s'attendre à ce que pas grand monde en fasse état et qu'on reste dans notre deux poids, deux mesures, si caractéristique de notre belle époque si rationnelle.
Tout à fait. Indignation sélective, là. C'est-à-dire l'extrémisme de gauche est beaucoup plus accepté dans la société que l'extrémisme de droite. Écoute, je me fais l'avocat du diable, OK, pour les fins de la discussion. Moi, je suis sensible à l'environnement, comme tout le monde, puis j'imagine que tu l'es aussi, Jérôme. Bon, mais je suis pas un crinqué. Mais mettons les gens qui croient vraiment que la situation est extrêmement urgente et qu'on s'en va vers une sorte d'apocalypse, de fin du monde, ces gens-là se disent « ben là, il faut prendre des moyens qui sont extrêmes pour réveiller le monde, là, parce que ce qui s'en vient, c'est épouvantable. »
Tout à fait. La psychologie apocalyptique, dans tous les camps, elle est assez dangereuse. D'ailleurs, mon mémoire de maîtrise en sciences des religions portait sur la dimension apocalyptique de l'écologisme. Et il y a vraiment, dans l'écologisme, bien évidemment, la volonté de l'urgence d'agir. Hein, c'est vraiment un sentiment d'urgence qu'on nous présente constamment. Et Al Gore, à l'époque, d'ailleurs, il s'est un peu ridiculisé parce que dans ses prédictions qu'il faisait dans son fameux best-seller Urgence, Planète Terre, je pense la traduction en français, tu vois, il y a le mot urgence dans le titre. Eh bien, selon ses prédictions, on serait déjà tous morts depuis une dizaine d'années. Donc, je m'étais un peu amusé dans mon mémoire à relever ça. Mais ça ne veut pas dire que la situation n'est pas préoccupante. Évidemment, il faut prendre certaines mesures, mais la psychologie apocalyptique, elle existe depuis 2000 ans, depuis 3000 ans. Déjà juste à l'époque de la guerre froide, on pensait qu'on allait vers l'apocalypse nucléaire. Là. Donc, il y a toujours toutes les époques ont été marquées. Tu sais, il y a eu le millénarisme, par exemple, au Moyen Âge. On croyait que c'était la fin du monde. T'sais, la croyance en la fin du monde, pour être précis, ne date pas d'hier. Les Juifs avaient cette croyance-là, le retour du Messie, etc. Donc, c'est une croyance qui a traversé l'histoire. Comme je dis, ça ne veut pas dire que l'environnement n'est pas malmené. Il est malmené. Ceci dit, je trouve que l'écologisme fait beaucoup trop dans la décroissance, là. La décroissance économique. Je suis pas certain que ce soit vraiment la voie à suivre, justement pour être vert. Là.
Et le pessimisme aussi. Moi, je crois beaucoup aux avancées de la science. Deux nouvelles cette semaine. On a envoyé une fusée dans l'espace pour détourner la trajectoire d'une météorite. C'est quand même hallucinant, là. C'est le film Armageddon. Ben oui. En réalité. Et aujourd'hui, dans le journal, on voit qu'on peut fabriquer, Jérôme, de la peau avec une imprimante 3D. La France réalisera les premières greffes en 2022. On prend un morceau de peau de quelqu'un et après ça, on peut fabriquer de la peau pour lui avec une imprimante 3D. T'imagines les avancées de la science. Et moi, je crois que une des solutions pour les problèmes écologiques qui se posent, la science va pouvoir les régler. Je suis peut-être trop naïf, je suis peut-être trop optimiste. Qu'est-ce que tu en penses?
Non, moi, je pense que c'est la seule voie valable. Je pense que l'écologisme actuel est un peu technophobe, justement, et que notre seule chance, en fait, la seule chance, ce sont les technologies vertes. Et pour développer des technologies vertes, ça prend de l'argent. Et pour avoir de l'argent, eh bien, il faut encore de la croissance économique, malheureusement, là. Et s'il y a une chose que m'a apprise l'Amérique latine, c'est bien ça. C'est que pour être vert, ça prend de l'argent. Et pour avoir de l'argent, mais peut-être qu'il faut continuer à développer, à exploiter pendant un certain nombre d'années des énergies dites sales. Oui, mais pour transiter vers justement une économie plus verte où des technologies vont être développées, mais encore une fois, la recherche, tout ça se paie. Écoute, c'est pas compliqué. Dans les pays en voie de développement où il n'y a même pas d'aqueduc, il n'y a pas d'installation sanitaire, par exemple, pour que les gens puissent boire l'eau du robinet, on peut seulement imaginer le nombre de bouteilles en plastique qu'on peut consommer juste dans la ville de Mexico, par exemple, qui est une ville de 25 millions de personnes.
Aïe.
On ne peut pas boire l'eau embouteillée, OK? On ne peut pas boire l'eau du robinet. Donc, on ne peut pas boire cette eau-là. Donc, ce sont 25 millions de personnes qui boivent de l'eau embouteillée. Donc, on peut comprendre que nos efforts de nos écologistes au Québec, on peut bien utiliser une bouteille réutilisable et ne pas utiliser les bouteilles en plastique. Mais vous comprenez que Mexico vient ruiner en deux secondes tous les efforts des Canadiens réunis, juste une ville. Pourquoi?
C'est incroyable.
Parce qu'ils ont pas assez. Ben oui, puis l'Amérique latine, c'est ça, là. Donc, quand la priorité, ta principale préoccupation, c'est de nourrir ta famille la fin de semaine, d'arriver au bout du mois. Ben c'est clair que t'en as rien à foutre, franchement, de l'environnement. Tu vas continuer à utiliser ton char des années 80, 90, ton bazou qui pollue en masse. Puis les autos électriques, puis les autos Beat, etc., puis les Tesla, ben, vous comprenez que ça prend de l'argent. Ça prend de l'argent,
oui.
C'est tout, là.
Ben oui.
Donc, ça pour dire que La décroissance économique dans les pays en voie de développement, oubliez ça. Plus on va être, plus les sociétés en développement, moins elles vont être riches et plus elles vont polluer. Et plus elles vont continuer à polluer et plus elles vont annuler tous les efforts qu'on fait dans les pays comme le Canada, tout simplement.
Et on se le dit souvent, hein, Greta Thunberg, si elle est vraiment sérieuse, elle devrait aller manifester en Chine, qui est un des pays qui pollue le plus. La Chine pollue. Hey, la Chine est en train de développer un programme pour contrôler le climat. C'est pas du complotisme. Là. Ils vont envoyer des cristaux dans des nuages pour faire pleuvoir dans certaines régions et tout ça. Est-ce que tu entends Greta gueuler contre ça? Absolument pas. Et en terminant, écoute, j'ai une offre d'emploi de l'Université d'Ottawa pour être professeur en droit public. Et dans les critères d'admissibilité, bien sûr, tu dois avoir un doctorat complété, tu dois parler français parce que c'est une université française. Et la sélection sera limitée aux candidats ou candidates racisés ou autochtones. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Si tu es blanc, tu ne peux pas être professeur en droit public.
Écoute, on est vraiment passé de la méritocratie à la raciolocratie. C'est très préoccupant. C'est une dégringolade. Écoute, les universités canadiennes au grand complet sont vraiment gangrénées par le racialisme. Ce sont des usines à militants. Et écoute, les corps professoraux, vraiment... je veux dire, tout était rendu idéologique. Ça, c'est et non seulement les professeurs sont sélectionnés maintenant en fonction de critères ethniques, mais les sujets aussi de maîtrise ou doctorat que les étudiants vont choisir, qui vont être acceptés, sont aussi sélectionnés en fonction de critères idéologiques. Là. Donc, il y a une recette parfaite que j'ai observée en sciences sociales durant mon parcours. Si vous voulez vraiment avoir des bourses là, puis être appuyé par votre département, ça vous prend trois éléments dans votre sujet là, de maîtrise ou de doctorat. Ça vous prend des femmes issues d'un groupe racisé en lutte contre le capitalisme. Et là, vous êtes vraiment blindé. Donc, ce que ça peut donner comme sujet, là. Donc, là, vous voulez avoir de l'argent, puis vous voulez devenir un chercheur important. Et là, vous allez travailler sur des femmes autochtones au Nicaragua qui se sont soulevées contre une minière canadienne ou contre une compagnie comme Coca-Cola. Et là, vous êtes en business, vous allez être appuyé, pas à peu près,
Mais Jérôme, si tu veux faire, mettons, une recherche tout à fait sérieuse et tout à fait objective sur des mineurs qui ont changé de sexe et qui le regrettent, mettons, tu veux savoir, est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il y a un fort pourcentage ou un faible pourcentage? Pour faire avancer, jamais tu auras une scène de subvention de ton université pour ça. Jamais.
Non, impossible. Non, tout est idéologique aujourd'hui à l'université. C'est déplorable. Il n'a plus la pensée critique. Est vraiment une espèce en voie de disparition. Oui. Et les quelques professeurs qui n'adhèrent pas à la nouvelle église racialiste, eh bien, ont peur de s'exprimer parce qu'ils vont être totalement ostracisés de la part des autres professeurs. Et on imagine les tensions à l'interne que ça peut créer, là.
Mais c'est drôle parce que la gauche s'inquiète, là, justement, des entreprises privées qui sont trop présentes dans les universités, hein, puis qui peuvent orienter les recherches. Mais ils ne s'inquiètent pas des groupes militants qui sont présents et c'est aussi inquiétant, sinon plus.
Ben, je comprends. Écoute, c'est une vraie dégringolade. Là. Moi, quand j'ai quitté en 2018 l'Université d'Ottawa, après avoir fait ma scolarité de doctorat, c'était déjà beaucoup moins pire. Là. Il y a vraiment une radicalisation. Tu sais, en 2018 et 2021, ce qui s'est passé, c'est juste incroyable. Le climat, puis je connais encore des professeurs à l'université qui vont le dire, pas publiquement, mais qui vont me le dire
dans l'oreille.
En privé. Ben oui, mais écoute, le climat est invivable. C'est rendu invivable. On ne peut plus réfléchir à l'université sans se faire continuellement taper sur les doigts par des groupes militants. Et évidemment, toute la controverse avec le mot en haine, etc., en témoigne. L'Université d'Ottawa est devenue, c'est ucamisé à mort. Là. C'est l'Université d'Ottawa qu'on pensait relativement conservatrice. T'sais, c'est Ottawa, donc c'est la capitale du Canada. On pensait que peut-être cette université-là résisterait un petit peu.
C'est une des pires, là. Veux dire, ben vraiment, oui, le cancer de l'idéologie est en train de faire des métastases partout dans cette université-là. Hey, mon fils a 13 ans. J'espère qu'il n'ira pas étudier en philo ou en sociaux. Je croise mes doigts. En science, j'espère qu'il va aller, tiens. Merci beaucoup, Jérôme Blanchet-Gravel. Merci, salut. Bonne semaine.
Bonne fin de semaine, bye. Bye.